BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Alors ici, on décide la dissolution chaque jour. On dissout vos incertitudes sur l'avenir. On dissout l'idée que tout serait fichu et que l'avenir n'appartiendrait qu'aux autres. Comment parvenir à dissoudre les incertitudes? Grâce à des idées concrètes pour vous permettre d'investir, vous reconstruire ou vous construire un avenir grâce aux solutions de placement, d'investissement et la bourse via une vision actualisée du monde, le monde aussi large qu'il est et que nous le font voir les marchés financiers. La CBFM Bourse, votre dissolvant quotidien d'incertitudes. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver. Et Étienne Braque qui nous accompagne depuis la tour Euronext en direct. Bonjour, oula, il fait une tête mou Étienne. Et c'est vrai que le CAC 40, lui, en revanche, est en train de nous plonger dans une forme d'incertitude. On enfonce des seuils techniques majeurs et on est de plus en plus mal orienté aujourd'hui, Étienne.
En effet, puisque le CAC 40 est sur les plus bas niveaux de la séance et met en danger les 7700 points. 7706 points, c'est une baisse de 2%. Alors à voir si ça sera comme lundi, que le CAC 40 va récupérer des points dans les dernières minutes de cotation. Mais si cette baisse venait à se confirmer, ça serait la plus forte baisse pour le CAC 40 depuis juillet dernier. À noter que l'indice est sur des plus bas de février. Des volumes d'échanges qui sont supérieurs à la moyenne de ces dernières semaines, mais inférieurs au volume du début de semaine. Seulement 2 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien. Le secteur financier est vraiment plombé aujourd'hui. BNP plus forte baisse, moins 4% également pour AXA ou encore pour Crédit Agricole. Et puis à noter l'obligataire sur les pays du Sud qui continue de grimper, que ce soit pour la France, l'Italie, l'Espagne. Vous avez des hausses de 2 à 4 points de base. Il faut dire forcément que depuis 15h30, eh bien, la bourse de Paris ne cesse de baisser. Les Américains voient un paysage politique et puis surtout un G7 affaibli. Donc forcément assez peu d'initiatives sur les marchés européens alors que le Nasdaq est toujours sur un record historique grâce à une hausse de 0,2% actuellement.
Effectivement, et des chiffres d'inflation aux États-Unis qui confirment le ralentissement. Hier, les prix à la consommation montraient une nette accélération de la désinflation. On en a une confirmation aujourd'hui dans les prix à la production qui ressortent aussi inférieurs aux attentes. Ça, c'est une bonne nouvelle. De 10 ans américains, d'ailleurs, se détend, ce qui aide beaucoup le Nasdaq. Effectivement, nouveau record aujourd'hui. Et Apple, toujours première capi européenne. Finalement, Apple donc a fini par doubler Microsoft. On ne l'avait pas forcément vu venir, mais les annonces sur l'IA d'Apple lui permettent donc de se rehisser à la première place mondiale des grandes capitalisations aujourd'hui devant Microsoft. On va en parler. La France, elle, Étienne le disait, sous pression, le 10 ans français est à nouveau aujourd'hui au même niveau que le 10 ans portugais. C'était le cas avant-hier, c'est à nouveau le cas aujourd'hui. On est à 3,19 là, sur le 10 ans français, comme pour le 10 ans portugais. L'écart de taux avec l'Allemagne s'accroît. On a à l'instant là, 68 points d'écart de taux avec l'Allemagne entre les 10 ans français et allemand. C'est un plus haut depuis 2017. Et puis on parlera aussi de nos constructeurs automobiles en baisse. Ouais, il n'y a pas que les banques en baisse dans le contexte politique. Il y a aussi nos constructeurs automobiles. Mais là, c'est en raison de la concurrence, de la compétition entre l'Union européenne et la Chine et de cette surtaxe annoncée par l'Europe vis-à-vis des véhicules construits en Chine. On va aussi en parler, vous apporter des idées d'investissement. On est à vos côtés. Bienvenue à tous jusqu'à 18h.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Alors l'IA qui fait toujours la pluie et le beau temps quand même, il n'y a pas que les législatives qui passionnent le monde et l'international, l'IA continue d'enthousiasmer les investisseurs. Apple est donc à nouveau première capitalisation européenne grâce à des annonces sur l'intelligence artificielle en début de semaine. Et puis on voit aujourd'hui Broadcom dont la publication est portée elle aussi par l'IA, et bien ce titre Broadcom à Wall Street gagne à l'instant 15%, plus 15%. On en parlait avec John Plassard dans USA Today. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible. Il est en ligne sur notre application BFM Business. Vous pouvez bien sûr le consulter. Et puis aussi Tesla qui progresse après l'annonce d'une méga rémunération pour Elon Musk. Elle a été validée. Le titre Tesla gagne en ce moment 7%. Une rémunération de plus de 50 milliards de dollars. On ne parle pas d'un fonds souverain, on parle bien de la rémunération d'Elon Musk. Nos experts du club sont là pour en parler aussi. Alain Pitous pour parler d'ESG. Il est spécialiste d'ESG, c'est vraiment très. Oui, c'est très important.
Oui, mais.
Quel que soit le contexte, c'est important.
Exactement. Mais enfin là, c'est un peu au second plan, on va dire.
Senior Advisor ESG. Christopher Dembic aussi nous accompagne, conseiller en stratégie d'investissement pour PICTAM. Bonjour, Christopher.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver. Alors, on n'avait pas prévu de démarrer là-dessus parce qu'on voulait un peu changer par rapport au dernier jour, mais bon. Priorité au marché et au direct. Il se trouve qu'on a une nouvelle tension là sur la France. Le CAC 40 perd plus de 2%. Il est au plus bas depuis février. Et le 10 ans français se retend à 3,19. Le taux 10 ans français, Christopher, à nouveau au même niveau que le 10 ans portugais aujourd'hui comme avant-hier. Voilà.
Oui, il y a des inquiétudes. Et vous avez donné cette idée, donc j'ai bien précisé que pendant la publicité, vous aviez évoqué ça, vous avez mis en avant le fait que c'était potentiellement effectivement le fait que le Front Républicain et surtout Mélenchon pouvaient inquiéter. Et c'est pas complètement
exclu. C'est une question
exclu.
Qu'on se pose, ouais. Est-ce que les derniers sondages inquiètent le marché?
Exactement.
La force de la gauche. Quoi.
J'étais en Pologne pour, et j'ai eu l'occasion de rencontrer le chef d'entreprise, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, autant sur le programme économique RN, bon, bien évidemment, ils connaissent pas les détails, ce sont des étrangers, mais disons que tant qu'il n'y a pas la sortie de la zone euro, ça rassure. Ils disent c'est Mélanie, et j'ai eu exactement.
Enfin, ça rassurait pas en début de semaine, hein. Le RN, ça les rassure pas, les marchés.
Oui, mais il y avait l'effet de surprise, et finalement, la plupart se disent, elle va faire un peu comme Mélanie si demain, évidemment, il devait être au pouvoir. Mais il y a quand même le risque derrière cela, Mélenchon, qu'ils identifient au Front Républicain, Front Populaire, merci. Et ça, effectivement, ça nous rappelle quand même la période 2017. Vous le disiez, hein, l'écart de taux Allemagne-France, c'est 2017. C'était justement la période où il y avait aussi à la fois l'effet Le Pen, l'effet Mélenchon sur le marché obligataire. Donc ça peut être un élément d'explication. Les sondages montrent effectivement que finalement, l'écart n'est pas si important que cela. Après, ça va bien sûr se traduire en siège. Mais d'après quand même les sondeurs, le point qui est important, c'est qu'on aura beaucoup de matchs en second tour entre la gauche et effectivement le RN. Et là, ça peut, il y a toujours un schéma d'incertitude. Donc, même si je doute que ça se matérialise, ce risque Mélenchon, ça peut être quand même un élément qui va perturber. Et dans tous les cas, jusqu'au 7 juillet, il y aura de la volatilité, même probablement au-delà.
Dans ce Front Républicain que propose la gauche, il y a aussi désormais le nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Non, mais ça, peut-être qu'un investisseur international, il le découvre, il le voit, parce qu'il scrute beaucoup la France, là, les investisseurs internationaux. Bon, il voit le programme économique, effectivement, il a le droit
de parler longuement, effectivement.
Alain.
Ouais, enfin, moi, il y a effectivement, il y a un peu ce Front Populaire qui augmente et tout, mais je pense qu'en fait, depuis lundi, on est dans une situation où les investisseurs, et on le voit encore aujourd'hui sur le CAC, on le voit sur les actifs français en général, se posent simplement des questions. On voit que le risque a augmenté sur la France, on peut pas dire le contraire. Hein, que ça soit le programme du Front Populaire, enfin, je préfère pas en parler, ou le non-programme du.
On est obligé de l'appeler comme ça parce que comme ça qu'il s'appelle.
Oui, tout à fait. Oui, non, je parle pas du nom. Du programme. et même le programme du RN, parce que en fait, ce qui est amusant dans le programme du RN, c'est que tout le monde nous dit, ouais, mais c'est pas très grave le programme du RN, parce qu'ils feront comme Mélanie, en fait. Mais même ça, c'est absurde, en fait. C'est une manière de présenter les choses qui est fallacieuse, parce qu'en fait, soit ils savent qu'ils vont faire ça, donc autant le dire tout de suite dans la campagne, mais ils peuvent pas. Donc on se retrouve dans une situation où en fait, ils mentent délibérément. Donc ça crée un trouble. On sait très bien qu'ils vont pas faire tout un tas de mesures, et on se doute qu'ils vont devoir, comme tout le monde, à passer au budget 2025 et donc proposer des choses qui ne seront pas forcément très agréables. Et je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs, ils sont simplement dans une position d'attente. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à faire les ventes. C'est-à-dire que je ne pense pas que les investisseurs aient réalloué des actifs particulièrement en dehors de la France. Je pense qu'on est simplement dans une position d'attente. Donc ça vous donne un peu une idée du risque qu'il y a en ce moment dans le marché. Parce que là, on ne peut pas dire qu'il y a des vendeurs, et on a déjà des taux qui se sont quand même assez nettement tendus. Qu'on voit quand même, les investisseurs envoient quand même un message de prudence, et on voit que les investisseurs actions ont également levé le pied. Donc je pense qu'on est dans une phase qui va durer au moins dans la période de tractation, de savoir qui va être où, parce que bon, les premiers sondages sont vraiment très très indicatifs. Mais quand on va un peu stabiliser tout ça et on va passer vraiment dans la période programme, là on va peut-être arriver dans une situation où les investisseurs vont faire des choses d'ici le 4 juillet. Après, je pense que le schéma est un peu différent.
7 juillet, le 4 juillet, c'est les Britanniques votent.
C'est les Anglais, pardon. Ouais. Le 7 juillet. Et la bourse ouvrira
gros mois juillet,
gentiment le 8. Et en fait, je pense que l'espoir qu'on peut avoir en tant qu'investisseur, c'est de se dire qu'on se retrouve dans une situation, on va dire un peu à l'anglaise après le Brexit, c'est-à-dire une économie qui sous-performe, c'est-à-dire que si on bénéficie d'environnements plus favorables de taux, on progressera un peu moins que les autres. Dans les périodes de crise, on baissera un peu plus. C'est mauvais pour le business intra-français, c'est mauvais pour l'activité française locale, domestique, toutes les TPE, etc. C'est mauvais pour la consommation.
Qu'est-ce qui est mauvais? Enfin, de quoi on parle?
C'est-à-dire qu'en fait,
d'une absence de majorité absolue ou d'une majorité?
Alors ça, s'il n'y a même pas une majorité absolue, là,
c'est le plus probable à ce stade.
Oui, mais enfin ça, c'est encore très très.
Et ça permettrait peut-être de préserver les acquis, ce que le marché a depuis quelques années apprécié dans la politique économique française, de pas y toucher quoi. Au moins, il n'y aura pas de majorité absolue pour y toucher.
Il y aura quand même une possibilité d'activer des choses par décret, donc de se retrouver une période qui va quand même être assez défavorable et on se retrouve. Enfin, le programme économique du RN Ukraine, la seule chose qu'on peut vraiment identifier, c'est et qui casse la matrice de l'économie française, c'est la lutte contre les accords internationaux. On voit ce qui est intéressant, c'est le stress qu'il peut y avoir en Europe sur la hausse des tarifs sur les automobiles. Mais vous imaginez si on remet en cause tous les accords commerciaux, ce que quand même veut faire le Front National, le Rassemblement National, quelque part. Donc, on casse quelque chose qui va nous pénaliser, qui va créer un trouble pendant des mois et des mois. Donc, je pense que l'attitude des investisseurs aujourd'hui, c'est un peu de prudence aujourd'hui, mais quand les mouvements peuvent se mettre en route, ça peut être quand même très dévastateur.
Il y a un segment de marché qui a particulièrement souffert. Alors, on parle beaucoup des banques, c'est vrai, qui reculent encore nettement aujourd'hui. Plus de 4% de repli BNP Paribas, moins 3% pour Crédit Agricole. On a les concessionnaires autoroutiers. Vinci perd encore 2,5% aujourd'hui. TF1 et M6, bah oui, le RN veut privatiser le secteur public, donc ce sera un gâteau publicitaire à partager pour TF1 et M6 là désormais. Et ces titres sont encore en repli de quasiment 4% aujourd'hui, TF1 et M6. Mais surtout, derrière ces grands acteurs, il y a l'univers des small caps. Les small caps françaises, depuis ces derniers jours, souffrent particulièrement. Elles avaient pris de l'avance sur les grandes caps depuis 2-3 mois, et cette avance a fondu en 3-4 jours, Christopher.
Oui, bon, après, on en avait discuté sur d'autres plateaux, j'étais assez sceptique sur une surperformance des small caps sur le long terme, mais c'est vrai que, bien évidemment, là, ça complique très nettement la tâche, parce que comme vous êtes sur de l'incertitude, vous n'avez aucun intérêt, bien sûr, d'être positionné sur des valeurs qui ont problématique souvent de liquidité. La seule chose qui vont se passer, c'est des sorties de cotes, finalement, de cotation à l'heure actuelle, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs pas mal. Mais la réalité, effectivement, c'est qu'il y a cette période d'incertitude. Moi, là où où je suis un peu en désaccord, parce que la dernière fois c'était sur l'euro-dollar, qu'on soit en désaccord sur autre chose.
Finalement, j'avais raison.
Ah non, parce que j'ai pas dit. Oui, bon, on a 1,08. On va parfait.
Vous devriez vous présenter aux législatives. Voilà.
Sur l'euro-dollar.
Alors, sur quoi vous êtes en désaccord, là, messieurs? C'est quoi le désaccord nouveau, là?
Le désaccord, c'est que je pense qu'en fait, on a eu un indice, le RN nous a parlé, effectivement, sur le respect du programme économique. Ils ont dit, on va faire un audit. En 97, Lionel Jospin a fait un audit. Évidemment, l'audit des finances publiques ne peut être que mauvais. Et finalement, un audit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain stade, vous allez faire une baisse des dépenses. Alors, je pense pas qu'on ira sur une hausse de la fiscalité à l'instant T. Ce serait quand même problématique après une élection. Mais à mon avis, il y a justement ce scénario.
Même Emmanuel Macron n'est pas fermé à une hausse de la fiscalité. Vous avez entendu? Il est ouvert à toutes les propositions parce qu'il a besoin d'élargir sa majorité. Il est ouvert à toutes les propositions.
Oui, mais ça va être compliqué d'être bon. Déjà, il faut gagner, je pense, quel que soit le camp. Donc, la hausse de la fiscalité, ça va mal se passer. Et ensuite, même si on a gagné, c'est compliqué de se renier surtout dans l'immédiat. Donc à mon avis, le chemin qui est un peu le plus simple, c'est quand même la baisse des dépenses. Et dans tous les cas, et je pense que ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire peu importe qui sera au pouvoir demain, vu le déficit public, il devra passer par cette étape-là. Parce que finalement, bien évidemment, bon, la baisse de la notation par S&P c'était complètement passé inaperçu, mais c'était quand même un signal aussi montrant qu'à un certain stade, il va falloir faire quelque chose. Donc ça va être compliqué dans tous les cas d'appliquer un programme très dispendieux, très généreux, et indéniablement, il faudra se normaliser. Et finalement, le test de réalité, c'est les marchés. Vous devrez rentrer dans le rang, peu importe la couleur politique du gouvernement.
Tout à l'heure, Gilles Mouek nous disait, pour éviter une dégradation de la note de la France, il suffira pas de ne pas toucher aux acquis de la politique économique des dernières années. Il va falloir aller plus loin dans le réformisme, dans la réforme, pour éviter de nouvelles dégradations de notes pour la France. Vous êtes d'accord là-dessus? L'immobilisme n'empêcherait pas la France de se voir dégrader?
Non, parce que là, vous êtes à des niveaux de déficit public qui sont, clairement, on va pas pouvoir les réduire du jour au lendemain. La solution de la croissance, on l'a pas. En plus, c'est surtout pas du déficit public qui crée de la croissance et qui est productif, comme aux États-Unis. Donc, il va falloir aller au-delà des, excusez-moi, 10 milliards par exemple de baisse des dépenses, c'est pas suffisant. Donc il faudra multiplier ça par beaucoup plus. Et donc là, indéniablement, y compris avec des mesures qui ont pu être évoquées, c'est-à-dire la privatisation du service public, etc., ce sera très clairement insuffisant. Donc il faudra trouver d'autres lignes à cet égard. J'imagine qu'il y aura toujours cette piste étatique et des lignes qui sont claires. C'est-à-dire que très souvent, on a toujours eu les gouvernements, quand ils vous annoncent le budget, c'est peu importe d'ailleurs la couleur politique, on va lutter contre la fraude sociale ou fiscale. Donc on met un gros chiffre de plusieurs milliards, et quand on voit la collecte, il n'y a jamais rien derrière. Donc il faudra des mesures un peu plus concrètes pour convaincre les marchés et les agences de notation qu'on va atteindre ces objectifs-là.
Alors, BFM Business et BFM Bourse, c'est de la radio, mais aussi de la télé. Je ne sais pas si vous avez aperçu la tête d'Alain, pour ceux qui nous suivent, voilà, complètement dépité. Alors c'est Christopher qui vous dépite.
Alors il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. C'est-à-dire que la partie small cap, effectivement, je crois que là, on va être dans une panade assez concrète. Et puis les sorties de bourse, elles étaient faites par des fonds de private equity.
C'est vrai.
Et là, les fonds de private equity, je ne les vois pas revenir tout de suite en Europe, hein. Enfin en France, parce que, c'est des grands fonds. Les fonds français, bon, ils vont se poser des questions. Et les fonds internationaux, est-ce qu'ils vont aller acheter des PME françaises, enfin des PME, je caricature, mais des small mid françaises, aussi performantes soient-elles, dans la période. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une période de un peu un trou noir, c'est-à-dire de manque d'investissement, de manque d'idées, d'attentisme énorme. Donc, et encore une fois, je pense que alors comme ils vont se retrouver heurtés avec la problème des réalités des murs de la dette qui sont effectivement importants pour tout le monde, d'ailleurs qu'ils ont contesté, hein, c'est-à-dire qu'en fait ça aussi c'est amusant, c'est-à-dire que ça soit la gauche, la droite pendant qu'ils étaient dans l'opposition, enfin l'extrême gauche, l'extrême droite pendant qu'ils étaient dans l'opposition, critiquaient le fait que l'État n'aidait pas assez les Français sur le logement, sur l'essence, etc. Donc les voir aujourd'hui devoir serrer les cordons de la bourse, ça va être quand même quelque chose de très difficile. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des mesures qui leur paraissent assez anecdotique, donc ils vont baisser la TVA sur certains points. Je rappelle que l'idée de Marine Le Pen, c'est de rendre l'argent aux Français, donc ça donne un peu une idée du schéma intellectuel économique qu'elle peut avoir. Et puis l'autre point, c'est qu'ils vont prendre des mesures qui leur paraissent faciles, c'est-à-dire, encore une fois, remettre en cause les accords internationaux, remettre en cause certains accords avec l'Europe, qui vont les pénaliser lourdement, en réalité, qui vont pénaliser lourdement l'économie française.
Le Royaume-Uni, depuis le Brexit, alors les Britanniques se mordent les doigts d'avoir voté le Brexit, hein, et en gros, l'opinion commune désormais là-bas, celle des économistes aussi, c'est de dire le Royaume-Uni, c'est comme un véhicule qui roule avec un pneu crevé, quoi. Voilà.
C'est ça. Écoutez,
voilà. Et c'est un peu ça qui nous guette.
Je pense que ça, c'est la version, on va dire, soft. C'est-à-dire que si l'économie mondiale se tient bien, je pense pas qu'il y aura une catastrophe. Enfin, c'est pas mon scénario principal, mais je pense qu'on va se retrouver, je pense qu'il y a 60% de chance que l'économie française sous-performe pendant au moins 5 ans dans la période qu'on va traverser. Après, l'autre scénario, et ça c'est qui était un scénario, quand on parlait de la dégradation de la note française, on imaginait un scénario de crise sur la dette et ça paraissait très très loin. J'entendais tous les investisseurs, tous les intervenants ici qui disaient c'est très très marginal. Là je pense que ce risque il est passé de 1 à 10%, ce qui est quand même un risque qui commence à être substantiel. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Ça se passe comme ça se passe en ce moment, c'est-à-dire pendant quelques semaines, on en parle à BFM Business, on voit les taux qui montent de 30-40 centimes, ça paraît pas énorme, mais ça a un impact sur les banques, ça a un impact sur l'immobilier, ça a un impact sur l'activité économique, et à un moment donné, on commence à décrocher. On a à ce moment-là des interventions assez malheureuses qui essaient de compenser ça un peu à la Liz Truss, hein, qui, rappelons-nous quand même, a explosé en une semaine. Et là, comme on est en Europe avec des institutions, enfin comme on est en France avec des institutions qui sont quand même beaucoup plus solides qu'aux en Angleterre sur ce plan-là, on se retrouverait avec une situation où on peut avoir la dette qui monte très fortement pendant quelques temps avec un pic, et là qui nous mettrait dans une situation dramatique, parce que le coût de la dette dans ce cas-là va paraître rédhibitoire à tout un tas d'investisseurs, et on pourrait donc avoir cette crise-là. Alors, je la situe pas bien au-delà de 10%, mais c'est quand même, ça commence à être quand même significatif.
Bon, on rappelle hein, quand même aujourd'hui cette information, cet après-midi, on est sur un petit retour des tensions obligataires après la légère pause d'hier. On a à nouveau 68 points d'écart de taux là entre les 10 ans français et allemands à l'instant. Le 10 ans français est à 3,19, le 10 ans allemand est à 2,51. On en est là, donc c'est un écart de taux au plus haut depuis 2017 entre la France et l'Allemagne, et le 10 ans français est au même niveau cet après-midi que le 10 ans portugais. Christopher. Un scénario à la Liz Truss, vous voyez un scénario à venir possible à la Liz Truss?
Mais c'est bien parce qu'on est souvent en désaccord, donc vous nous invitez, c'est un peu plus palpitant.
Et là, c'est vous le modéré, j'ai l'impression.
Exactement, moi je suis optimiste, voilà. C'est assez rare d'ailleurs, il faut le noter. Plus optimiste que toi, disons, c'est ça. Non, je vois pas un scénario à la Liz Truss pour plusieurs raisons. Alors, disons par exemple.
Moi je le situe à grosso modo à 10% par rapport à.
Non, mais Alain s'en veut d'avoir mis ses scénarios sur la table. C'est que 10%,
Mais c'est quand même. Enfin, 10%, ça commence à devenir.
C'est dans le paysage.
Ça commence à devoir se poser des questions.
De mon point de vue, disons que je me trompe sur l'aspect normalisation à la Mélanie, que finalement, il n'y a pas cette normalisation. À minima, il y aura à quelques coussins de sécurité. On en a déjà eu un qui a joué. L'euro-dollar. On y revient.
Alain fait une moue dépité.
Voilà. Bon, voilà. Merci de préciser. N'a quasiment pas bougé finalement dimanche dans la foulée de la dissolution. L'euro-dollar a chuté de 0,25%. En 1997, quand on a eu la dissolution, le franc face aux marques s'est effondré pendant 3 semaines malgré les interventions de la Banque Centrale Française. Et ça, c'est lié surtout au fait que dans tous les cas, les investisseurs savent qu'on a la BCE qui est là pour intervenir, qui est un rempart contre la spéculation comme ça a été par le passé. Donc à mon avis, malgré tout, il y a cet élément-là qui va jouer. et surtout, malgré, je pense que vraiment, il y aura cet aspect normalisation du programme économique qui sera contraint. Parce que la réalité, s'ils veulent faire un audit, ça ne peut être que mauvais. Et donc, ils vont devoir, non seulement dans l'été, faire un projet de loi de finances rectificative. Alors, il y aura des mesures sociales, je pense, j'imagine, oui, tout ce qui est baisse de la TVA, etc. Oui. Mais fondamentalement, ils vont devoir trouver des mesures concrètes de baisse des dépenses qui sont réelles, pas donc surchargé comme on fait d'un point de vue comptable, parce que les marchés vont scruter. Donc, à un certain stade...
Mais ils vont dire qu'on va récupérer de l'argent en augmentant certains impôts.
Oui, et aussi, voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a en France, il y a quelque chose qu'on critique souvent, mais qui peut être un élément de stabilité, c'est la haute administration. La haute administration, la réalité, à Bercy, a quand même une mainmise extrêmement importante, peu importe la couleur politique.
L'État profond, comme disait l'État profond.
Bon, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce qu'en fait, je pense que le RN, s'il est bien élu, s'il a la majorité absolue aux élections, je pense qu'ils vont rentrer un peu en conflit avec l'Europe, ce qui casse un peu l'idée de la défense par l'euro. Et la grosse différence, et ça, personne ne le dit, mais la grosse différence entre la situation française et la situation italienne, c'est que l'Italie a réellement et indubitablement besoin des subventions européennes pour survivre. Et la France n'est pas dans cette situation-là. Donc, c'était normal que le Meloni se normalise plus rapidement, parce qu'on regarde, si on regarde sur un an, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pratiquement rien fait sur l'immigration. Elle a pris trois mesures fiscales, effectivement, intéressantes pour les familles italiennes, et ça, on peut pas le contester, voilà, c'est comme ça. Mais aucune réforme structurelle, parce que, elle a besoin de l'argent européen. Mais quand vous allez dire ça à un gouvernement RN backé par une assemblée très majoritaire, ils vont refuser complètement ça. Et donc, qu'ils soient un peu majoritaires ou pas, enfin, eux, ils vont estimer qu'ils ont gagné, c'est normal.
Enfin, ils seront obligés de faire des coalitions. Enfin, c'est le meilleur des scénarios, parce qu'on peut pas non plus.
Ils sont obligés, mais ils pourront pas.
Mais un scénario qu'on n'exclut pas, c'est-à-dire un Parlement qui soit pas gérable aussi. Et là, en revanche, par contre, l'impact va être...
C'est peut-être le scénario.
Oui, c'est exactement. Ça, mais on ne peut pas... Voilà, c'est...
Bon, Étienne nous appelle, tiens, la tour au Ronex. Il va nous sauver.
L'arbitrage la fin du match.
Étienne.
Alors, qu'est-ce qu'a raison, Étienne? Vas-y.
Oui, on attend impatiemment.
Que dit le CAC 40, Étienne, à l'approche de la clôture?
Le CAC 40... Il subit une sacrée baisse aujourd'hui, moins 2%, c'est plus important même que lundi, et il n'arrive pas à se remettre dans les dernières minutes de cotation. Ça sera le fixing dans 8 minutes et il est quasiment sur les plus bas niveaux de la séance. Il a même perdu les 7700 points il y a quelques secondes, 7701 points à l'instant, des plus bas de février. Des volumes d'échanges qui ne sont pas énormes, vous avez 2,2 milliards d'euros négociés dans l'indice. À noter que Hermès est la seule hausse du CAC 40, et puis le marché qui revient également sur des sociétés spéculatives, Bolloré ou encore Dassault Aviation qui sont en hausse, et donc le 10 ans français qui continue de grimper très légèrement de plus de 2 points de base, 3,16, et donc un écart de taux, donc un spread qui continue de s'élargir entre la France et l'Allemagne, 68 points de base à l'instant entre ces deux références européennes.
Et ça pèse sur le secteur bancaire, donc 3,7% la baisse de BNP Paribas. Étienne Bras qui nous fera vivre la clôture en direct depuis la Tour Euronext dans quelques minutes, bien sûr. On voulait aussi vous dire un mot d'Apple quand même, on reviendra sur la politique française dans un instant parce qu'il y a à nouveau une tension donc sur la France cet après-midi. Apple à nouveau première capitalisation européenne, incroyable. Mondiale. Si ce n'était qu'européenne. Mondiale. Qu'est-ce que ça. Grâce à l'IA, voilà, une nouvelle fois l'IA.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui était amusant, c'était ce qui s'est passé pendant les présentations d'Apple. premier jet de présentation, un recul, c'est-à-dire que le titre a baissé de 2% sur les différentes annonces parce que les uns et les autres se disaient on voit pas trop où ça va aller, puis il y avait cet espace de tout de suite des interventions d'Elon Musk qui a critiqué
le fait qu'Apple recourt à OpenAI,
et puis avec l'accès aux données, etc. Donc le titre recule, et puis derrière le titre s'est mis à flamber de 6% parce qu'en fait ce qui est apparu, c'est que les développeurs d'applications ont vu assez rapidement qu'ils allaient pouvoir intégrer l'ensemble de d'informations et de données que leur donnait la possibilité Apple leur donnait la possibilité d'accéder, et le titre a très fortement monté parce que l'écosystème Apple est d'une puissance phénoménale. Alors après,
on espère que ça va booster les ventes d'iPhone 15 manifestement.
Siri qui va se transformer en assistant individuel nettement upgradé par rapport à la situation actuelle, donc ça a quand même permis permis à Apple de continuer à progresser, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que Apple se porte très bien. Voilà, et ils ont encore une fois, c'est aussi une des raisons dans un autre domaine pour laquelle Nvidia progresse comme ça, c'est et Microsoft.
Et Nvidia Microsoft progresse de 3% aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Et c'est en fait l'idée de d'infrastructure globale, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont pas simplement un fournisseur d'iPhone ou un fournisseur de données ou un fournisseur de puces, c'est des gens qui ont un univers business assez global et qui permettent de générer un maximum de rentabilité.
Et la capitalisation d'Apple qui a franchi pour la première fois les 3000 milliards de dollars, c'était il y a quelques heures, hein, plus de 3000, on est déjà à 3301. Ça va à une vitesse folle. Alors là, c'est Christopher qui a l'air dépité.
Non, t'es pas short Apple quand même, rassure-moi.
Non, je suis pas short Apple quand même, j'aurais de mauvais conseils. Au contraire.
Sinon, on peut parler du méga salaire de Elon Musk, sur les 53 milliards de dollars.
Non, sur Apple, effectivement, après, il y a des phénomènes qui vont accentuer. Il y a tout ce qui est quand même gestion passive, il ne faut pas oublier ça, ce qui est aussi une lame de fond. Au-delà, bien sûr, de l'aspect technologique, qui est un point important. On est en désaccord sur tout. Au-delà de l'aspect technologique, qui est un point important sur l'IA, avec infrastructure IA, IA générative, il y a aussi quand même ce qui va accentuer tout ce phénomène d'ETF, qui est un point important, c'est à prendre en compte.
17h31, messieurs, alors que le CAC 40 souffre énormément, on va y revenir. On entre dans la data room tout de suite.
C'est pour toi.
On a entendu un gros mot. C'est pas grave.
C'est pas moi.
La data room, c'est ici et maintenant que tout se joue. Effectivement, votre hug avec les data. Rien n'embrasse mieux le réel qu'une bonne data. Alain et Christopher, est-ce que vous êtes prêts?
Oui, je suis prêt.
Vous avez chacun une minute pour nous livrer une data forte. Alain, on va démarrer avec votre chiffre. On revient à la politique française. Votre chiffre, c'est 10 milliards d'euros.
Oui, en fait, ce chiffre est déjà faux parce qu'en fait, c'est la perte de capi des valeurs bancaires sur les trois premiers jours de bourse. Je pense qu'aujourd'hui, on doit rajouter pas loin d'un milliard de pertes encore. En fait, si on évoque ce qui s'est passé depuis lundi, un des secteurs les plus gros perdants de la crise actuelle, la crise, pas encore vraiment une crise, mais enfin de la situation, des tensions actuelles, sont les banques qui sont à la croisée de tous les problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils souffrent de la hausse des taux, donc un peu de rentabilité en moins, des risques supplémentaires, donc c'est pas très bon. Ils sont soumis peut-être à une taxe, un peu ce qu'avait menacé de faire Meloni en Italie, donc une taxe sur les résultats des banques qui ne répercute pas assez vite les baisses de taux de la BCE pour les crédits immobiliers, donc un risque de ce côté-là. Et puis, un autre risque qui a un effet second tour, hein, c'est la baisse d'activité en France qui les perturberait dans leur activité commerciale, parce que qui dit risque de défaut, perte supplémentaire. Ouais. Et puis vous prêtez moins quand vous êtes une banque, quand vous êtes la banque de Dourdan et que vous avez du mal à prêter de l'argent à droite à gauche parce qu'il y a des problèmes sur les PME du coin. C'est autant de rentabilité en moins sur les.
Fallait y penser à Dourdan quoi.
Oui, faut y penser. Ouais, mais il faut y penser. Dourdan, c'est très important.
Mais dans les Yvelines, hein, c'est ça.
Non, c'est dans l'Essonne.
Oh là là.
Ah, oui. Bon. Troisième circonscription.
C'est vrai.
Donc plus de 10 milliards d'euros de capitalisation envolée sur le secteur bancaire français là depuis le début de l'année. Un chiffre qui s'aggrave encore aujourd'hui puisque ce secteur est encore sous pression. Alors tout n'est pas noir. Hein. C'est Sébastien Barthélémy qui nous le disait pour Kepler Chevreux. Les CDS sur les entreprises françaises, les CDS ne se tendent pas particulièrement. Signe quand même que malgré la dissolution, malgré le risque d'enlisement politique, bon, sur le front en tout cas du corporate et des entreprises, on a une vision toujours très très solide du marché français. Il nous le disait tout à l'heure dans la famille BFM Bourse. Si vous l'avez raté, le replay est disponible sur notre application BFM Business. C'était à 16h40. Alain s'est livré. À votre tour de nous livrer, de nous offrir une belle data, Christopher. Votre chiffre ce soir, plus 1%.
Comme j'ai décidé d'être l'optimiste de la séance, on va parler de quelque chose de positif. Donc, on regarde du côté des États-Unis avec l'inflation américaine. C'était le gros sujet. Je vous donne juste une donnée. 1%, c'est la hausse des prix alimentaires dans les épiceries. C'est le plus bas niveau de hausse au mois de mai, donc depuis juin 2021. Donc, c'est plutôt très positif. Oui. C'est ce qui a été, justement, en termes d'arguments pour que la Fed, éventuellement, ouvre la porte à une baisse des taux. Donc, potentiellement, une baisse de taux cette année. Et le point qui est intéressant, c'est que ça montre aussi que le fait politique, il faut jamais l'exagérer. Donc, je me mets complètement à l'opposé d'Alain, une nouvelle fois, et que la Fed a parfois plus d'impact, puisque hier, la détente qu'on a observée aussi du côté français s'est alliée justement à la Fed, et donc à cette, enfin, une visibilité du point de vue de la politique monétaire qui arrive.
Et la Fed qui n'ouvre plus la voie qu'à une baisse de taux cette année.
Oui, au lieu c'est quand même... le consensus était à 7, hein, ça vous montre à quel point...
Oui, enfin, il y a au début d'année, pas
au
hier.
Début d'année. Hein,
pas hier matin.
Oui, mais bon, quand même, malgré tout, il était un peu exagéré, je pense. Ouais,
hein. Enfin, une seule baisse de taux, est-ce que c'est pas exagéré non plus dans la mesure où l'inflation ralentit très nettement? Vous avez vu les derniers indicateurs, encore aujourd'hui. Est-ce que là, la Fed n'est pas un peu déjà désuète, quoi, obsolète dans ses prévisions?
Oui, mais on peut même considérer que si on regarde l'intégralité de l'économie américaine, la réalité, c'est que c'est pas sûr et certain que la Fed a réellement la nécessité d'aller sur de l'assouplissement aujourd'hui.
Ah oui, d'accord. Donc déjà, une baisse de taux, ça vous paraît pas mal. Déjà,
c'est bien, je pense, vu le contexte. Enfin,
sur la politique, on en reparle le 4 novembre.
Hein, ah bah, tout à fait. Oui, on va nous inviter à ce moment-là.
Voilà, tout de suite, les grands mots, 4 novembre, allez, direct.
Non, mais ça aura un impact massif au-delà des prix dans les épiceries américaines. Quoi.
Ils sont en désaccord sur tout.
Tu dis que mon chiffre n'est pas bon. Quoi.
Lequel
c'est
des...
pas bon. Pas
lequel des deux vous a le plus convaincu? N'hésitez pas à voter. La Data Room est à retrouver en replay dans un instant.
Je précise que si c'est moi, j'amène Norbert en plateau, mon chat. Donc,
ouais, j'amènerai Gaston.
Alors voilà, c'est les habitués de Marc Fiorentino qui connaissent. Voilà. Il s'agit d'un chat, Norbert, et
de Gaston, mon chien,
c'est
Gaston.
Votre chien. Ouais. Voilà.
Chien, bon, il chat. S'entendre. Hein.
Merci messieurs, la Data Room. Dans un instant, donc Christopher Dembick nous accompagne ainsi qu'Alain Pitous. Dans un instant, donc la clôture des marchés, elle s'annonce rouge. On est de bonne humeur hein, ici sur le plateau, mais sur les marchés, c'est l'inverse. Étienne Braque sera avec nous depuis la Tour Euronext. Et les seuils techniques à ne pas rater pour la suite, c'est très important parce qu'on a enfoncé des paliers majeurs aujourd'hui sur le CAC 40. Romain Daubry sera avec nous depuis Bourse Direct. A tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Étienne Braque nous accompagne depuis la salle de contrôle du CAC 40. Effectivement, Étienne, nouvelle séance en forte baisse en Europe aujourd'hui.
En effet, avec une baisse de quasiment 2%, 1,99 pour être précis, un CAC 40 qui clôture de justesse au-delà des 7700 points, 7708 points ce soir à la clôture. Alors si c'est pour vous rassurer, si on veut essayer de se réconsoler, vous avez une baisse qui est généralisée en Europe, moins 2% pour l'Eurostox 50, moins 2% pour le DAX à Francfort. Vous avez également la bourse de Milan qui perd 2%, quand l'IBEX à Madrid perd 1,5%. Il faut dire que depuis l'ouverture de Wall Street, vous avez des indices européens qui ont enfoncé le clou. Il faut dire que les Américains se réveillent, voient un G7 qui est en train de se dérouler en Italie où en fait tout le monde est en difficulté, où vous avez une situation politique en France qui n'est vraiment pas claire. Et puis dans le même temps, vous avez les 7 magnifiques qui continuent de grimper sur des plus hauts historiques. Il suffit de voir le Nasdaq qui est sur un plus haut aujourd'hui à 17 653 points. Du côté des valeurs qui sont en forte baisse aujourd'hui, à souligner le secteur financier, le secteur bancaire, AXA perd 4%, 30,95€, BNP qui perdait 4% en séance perd finalement 2,94€ et sauve les 60€. Vous avez Crédit Agricole qui perd un peu plus de 3% ce soir à la clôture. À l'inverse, Hermès est la seule hausse du CAC 40. Hein, c'est devenu la valeur défensive du CAC 40. Au-delà des 2100€, 2168€ grâce à une hausse de 0,56. À noter l'obligataire qui grimpe en Europe, notamment pour les pays du Sud. L'Italie, l'Espagne ou encore la France gagne du terrain. Plus 2 points de base pour le 10 ans français à 3,17. Alors que le Bund allemand, qui est la référence, hein, valeur refuge en Europe, il faut en acheter une, moins 5 points de base pour le 10 ans allemand à 2,48 et un spread, donc un écart de taux entre la France et l'Allemagne qui se retrouve sur des plus hauts de 2017. La Bourse de Paris donc qui perd quasiment 2% ce soir à la clôture et qui sauve de justesse les 7700 points, 7708 points sur des plus bas de février dernier. Depuis le début de l'année, le CAC 40 ne gagne plus que 2,3%. Enfin, un mot sur les volumes d'échanges qui ont été en grande partie constitués à la clôture, 4,2 milliards d'euros négociés ce soir dans l'indice parisien.
Alors justement, cette clôture dans ces volumes, plus de 4 milliards d'euros, quel signal envoie-t-elle pour la suite? Et les paliers techniques ont été tous, tassés, enfin pris, comment on dit, enfoncés, voilà. Quel signal aussi, quelles leçons en tirer pour la suite? Quelle perspective et potentiel? Romain Daubry nous accompagne depuis Bourse Direct. Rebonsoir Romain. Est-ce que cette baisse de ce soir, moins 2% sur le CAC 40, ouvre la voie techniquement peut-être à une probabilité d'autres baisses à venir?
Oui, probablement. On est sorti d'une longue consolidation qui datait de la fin mars, située entre 7830 et 7849, 8149 pardon, sur le futur CAC 40 échéance juin. Le fait de sortir par le bas d'une consolidation après une forte progression, c'est un signal de retournement de la tendance. Elle se forme dans des volumes importants, 4,2 milliards, c'est plus que la moyenne, et donc elle ouvre la voie effectivement à des baisses complémentaires en direction de 7632, premier niveau de support majeur, et puis la cible idéale de ce mouvement, c'est un peu au-delà des 7600. 7500 points. Ce qu'il faut dire en revanche, c'est que dans ce mouvement de baisse, on n'a pas de pression baissière du côté des marchés dérivés, ce qui est rare sur le CAC 40 en tout cas. Sur l'Eurostoxx, c'est un petit peu différent. Il y a un petit peu de pression baissière, mais pas sur le CAC 40. Ça signifie qu'il n'y a pas de stratégie vendeuse forte, ferme sur le marché. C'est plus un rebalancement de position et des dégagements que des stratégies baissières lourdes et structurelles. Et puis on peut noter effectivement cette divergence de fonctionnement entre les indices américains au plus haut et des sell-offs assez marqués maintenant sur les indices européens, qui sont cette fois-ci harmonieux. Hier, on montait un peu moins que les indices Eurostoxx et DAX à Paris. Aujourd'hui, ils sont tous de façon harmonieuse en baisse et dans des volumes assez marqués. Donc, effectivement, probable consolidation complémentaire.
Quels sont les prochains seuils sur le CAC ? On est à 7708 en clôture ce soir. Les prochains paliers sur lesquels on peut espérer essayer de limiter les dégâts pour la suite, Robin ?
Alors, il faudrait repasser sur le futur juin 7764, ce serait vraiment le premier niveau important, puis 7830 pour réintégrer la zone de consolidation latérale. Si on voulait reprendre des couleurs, c'est au-delà de 7916 et puis réactivation haussière, 8005. On n'y est pas du tout, 8005. En revanche, en bas, et la cible donnée par cette rupture aujourd'hui, c'est 7632 dans un premier temps et 7511 points ensuite.
Merci beaucoup. Romain Daubry en direct avec nous depuis Bourse Direct. On va revenir dans le détail de cette séance avec nos experts. On est à vos côtés jusqu'à 18h sur BFM Business. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Renaud Ramed, gérant chez Premier Parrain, nous accompagne. Bonsoir Renaud, bienvenue.
Bonsoir Guillaume.
Éric Blaine aussi, directeur de la gestion action de Swiss Life Banque Privée. Bonsoir Éric.
Bonsoir Guillaume,
ravi,
bonsoir
messieurs, à tous. Ravi messieurs de vous retrouver. Alors effectivement, soit on se console en se disant le CAC 40 a reculé pas plus que les autres marchés européens, moins de 2%, c'est exactement ce qu'a fait l'Eurostoxx 50, on peut s'en consoler. Ou au contraire, se dire la baisse elle est de plus en plus harmonisée, de plus en plus partagée, en Europe. En tout cas, aujourd'hui, on voit que l'accélération baissière sur le CAC s'est faite à peu près en même temps qu'une pression sur le 10 ans français. La France reste très très scrutée et on est sur un nouveau plus haut d'écart de taux entre la France et l'Allemagne là depuis 2017, un nouveau plus haut de 7 ans d'écart de taux. On a 68 points d'écart de taux en ce moment entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Et ce CAC qui perd 2%. Bon, comment est-ce que vous regardez ça, gérant action que vous êtes d'ailleurs, depuis la dissolution, est-ce que pour vous le monde a un peu changé sur les marchés ou faut pas s'énerver et on peut se dire que ces baisses d'un certain nombre de valeurs offrent aussi des points d'entrée? Renaud.
Oui, bon, alors il y a clairement un pricing de marché qui dès lundi a été intermarché, c'est-à-dire ça a touché les actions, les taux.
C'est pas une pub, hein, c'est, voilà. Ouais.
Tous les marchés et également le marché des devises, avec somme toute une réaction plutôt modérée. Là, on s'inscrit un peu dans la continuité. Certes, ça se diffuse à l'Europe, mais c'est sûr que la pression sur les bancaires, sur les secteurs dits, on va dire, ciblés par le programme envisagé, il y a un effet. Ensuite, il y a l'effet quand même d'hier du discours de Jérôme Powell. On éloigne encore une détente des taux, donc l'acte de la BCE se retrouve un peu plus isolé, même si ça n'empêche pas les valeurs tech, mais spécifiquement US de monter. Et puis tout ça s'inscrit dans un cadre, je vous rappelle, de marché qui était très très haut, alors que tout le monde appelait au sell in May un go away. On avait eu un rallye au mois de mai assez fort, et notamment sur des classes risquées. Donc on va dire que les marchés...
Rallye, le CAC il était stable au mois de mai.
Oui, mais par exemple les valeurs moyennes et encore plus, c'est-à-dire les petites valeurs ralliées fortement, c'est ce qui dénotait une appétence au risque. Donc quand même, les marchés, on sentait que les marchés étaient mûrs pour une justification ou une raison à la baisse. On va dire que celle-ci était un peu toute trouvée.
Est-ce que, alors, les banques aujourd'hui reculent avec donc cette nouvelle tension sur le 10 ans français particulièrement? Là, il y a quand même une exception française sur le marché obligataire, qu'on constate encore aujourd'hui, 10 ans français se tend, plus que le 10 ans espagnol, plus que le 10 ans italien. Et donc, on a un 10 ans français au même niveau que le 10 ans italien, là, désormais. Eh oui, on en est là. On était à 3,19 tout à l'heure, vers 17h15 sur le 10 ans français. 3,19, c'est le niveau du 10 ans portugais. Portugais, voilà. Même niveau entre les taux portugais et français désormais, avec cette tension sur la France. Les banques en souffrent particulièrement. BNP Paribas, ce soir, perd plus de 4%. En tout cas, perdait 4% dans la dernière demi-heure. On a terminé à 3% de repli. Crédit Agricole aussi en repli de plus de 2%. On a aussi Vinci, toujours, peut-être une privatisation, on verra par ailleurs, du secteur audiovisuel public en France, TF1 et M6, du coup, qui reculent nettement ce soir de 3 à 4%. Est-ce que dans cet univers de valeurs qui souffre depuis l'annonce de la dissolution, certaines ou certains secteurs vous semblent désormais offrir des points d'entrée? On est une émission d'investissement pour les investisseurs. Est-ce qu'il y a des points d'entrée là où vous préférez laisser passer le train, Renaud?
Alors, je pense que c'est un petit peu tôt. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des secteurs qui sont spécifiquement ciblés par un programme, type les secteurs régulés, hein, ouais. Type les autoroutes.
Vinci paie encore 2,5% ce soir.
Voilà, donc là, ça relève un petit peu de la pièce de monnaie qu'on agite. Ensuite, en période de trouble, les secteurs bancaires, elles, pourraient être impactés pas plus durablement, mais c'est-à-dire qu'il y a un effet, il n'y a pas que l'effet programme, bien sûr, mais il y a également l'effet économique, l'effet taux qui pourrait se tendre et qui n'est pas bon ni pour leur bilan, ni pour leur solvabilité, et leur détention d'obligations en bilan. Donc c'est pareil, moi ça me semble encore un peu tôt, même si dans ce pricing de marché, cette valorisation qui est imprimée, c'est probablement qu'il y a un peu une réaction et surtout une anticipation de quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que quand même le marché va directement dans une issue possible. Hein. Bon, il y en a quand même d'autres, c'est une élection qui est quand même où il y a quand même un...
Mais il y en a plein, mais il n'y en a aucune bonne apparemment. C'est une majorité absolue RN, c'est pas bon pour les marchés. S'il y a zéro majorité absolue de personnes, il y aura blocage et ce sera pas bon pour la note de la France parce qu'il faut continuer de réformer le pays manifestement. Et puis on voit la gauche aussi très forte dans les sondages, mine de rien, et nos experts du club nous disaient tout à l'heure que c'était pas forcément non plus du goût du marché dans la mesure où il y a les filles, il y a même le nouveau parti anticapitaliste dans cette alliance. Bon voilà.
Oui. Non, alors, c'est un cocktail compliqué. Il y a un pricing de marché sur un programme et il est difficile de savoir finalement quel sera ce programme. Voilà, il y a une vision du marché mais qui est surtout un peu tôt pour prendre des positions certaines.
La vision suisse. La sérénité d'Éric Blaine avec nous depuis Swiss Life Banque Privée. Bonsoir donc Éric, merci de nous accompagner aussi. Quel regard portez-vous sur la baisse ce soir du CAC et ses secteurs, les mêmes depuis le début de la semaine, qui signent les plus forts replis?
Ben, c'est pas très étonnant quand même. Faut bien reconnaître que ce sont les secteurs qui sont visés par un éventuel intervention du un Rassemblement National qui est élu et qui derrière peut gouverner. Effectivement, c'est secteur bancaire, secteur des concessions, secteur des médias qui sont touchés. D'un autre côté, c'est pas du tout sûr qu'ils puissent réellement dérouler un programme, et pas encore la majorité. Donc si ce n'était pas le cas, moi, je regarderais Vinci et TF1. Hein. Vinci vient de perdre 16,78% en plus des 3,7% du CAC. TF1 vient de perdre 12% en plus des 3,7% du CAC donc depuis vendredi dernier. S'ils peuvent pas dérouler leur programme, Vinci franchement est beaucoup moins exposé aux concessions autoroutières françaises que Eiffage. Eiffage a perdu 8 en plus du CAC 40. Vinci perd 8 aussi. Donc clairement, il y aurait un rattrapage. Il y aurait un rattrapage sur TF1 qui a perdu 12% si ils ne pouvaient pas dérouler leur programme non plus et que la donne n'était pas spécifiée. Dans ce cas-là, il y aurait un rattrapage fort. Moi, je pense que c'est deux valeurs à regarder dans ce cas-là.
Il faut qu'on parle aussi, alors au-delà de la politique française, et de la politique européenne face à la Chine, avec l'annonce de surtaxes douanières pour les véhicules qui viendraient de Chine, qui seraient fabriqués en Chine et importés en Europe, donc des surtaxes à venir. Et on voit que Rémy Cointreau, ce soir, a énormément souffert, moins 6% en clôture, parce qu'on se dit que la Chine va peut-être annoncer des mesures de représailles, du coup, sur un certain nombre de secteurs face aux annonces européennes, et notamment le secteur, et ils sont déjà très présents là-dessus, le secteur des cognacs et des spiritueux. Ce soir, Rémy Cointreau perd 6%. Comment est-ce que vous regardez la suite sur Rémy Cointreau?
Alors, de manière mitigée, mais pas uniquement sur cette affaire-là. Vous savez, bon, on pense que, vous savez, il y avait le pseudo-annonce quand Xi Jinping était venu en France, de pseudo-rassurer sur le secteur. Oui. On pense que quand même, ça pèse pas forcément lourd dans la défense du secteur s'il y a un revirement. Nous, c'était plutôt sur les derniers commentaires de la société. Certes, c'est pas un bon élément, mais au-delà de ça, ce qui nous fait être plutôt à l'allègement sur ce type de dossier, c'est que néanmoins, la reprise du cognac aux US, hein, qui est le sujet, semble être décalée dans le temps et que ça ne déstocke pas tant que ça. Voilà, au niveau des distributeurs. Voilà, donc si Rémy, il y a un argument de la valorisation, mais je rappelle, la valorisation, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est jamais l'élément déclencheur, donc ça semble être un peu, et puis là, cet élément n'est pas positif.
On interroge là-dessus nos auditeurs sur notre application, notre site aussi, et nos réseaux sociaux, notre fil BFM Bourse, notre fil LinkedIn, notre fil X également. À vos yeux, quelle sera la principale victime, peut-être à venir, en effet boomerang, de la hausse des taxes douanières européennes sur les véhicules fabriqués en Chine? Est-ce que ce seront les acteurs des spiritueux, comme Rémy Cointreau, avec des mesures de représailles peut-être à venir de la Chine, ou est-ce que ce seront les constructeurs automobiles français, allemands? Voilà, vous êtes nombreux à avoir répondu, vous avez voté en grande majorité à plus de 50% pour les acteurs des spiritueux. Est-ce que c'est aussi votre avis, Eric? Est-ce que Rémy Cointreau est le plus exposé là-dedans?
Simplement, hein, Rémy Cointreau, c'est 25% de son chiffre d'affaires donc de vente en Chine, vente de cognac en Chine, et c'est 32% de son reste d'exploitation. Simplement, on commence à connaître la nouvelle et le titre a quand même beaucoup baissé. Donc, pour celui qui investit sur long terme, il pourrait quand même commencer à regarder le dossier et à en acheter. Et pour celui qui en a en portefeuille, c'est pas maintenant que je le vendrai.
Ben voilà, c'est dit et c'est concis. Une idée de pépite quand même pour la suite, parce que même si le CAC ce soir perd 2%, sa pire séance depuis juillet. C'est Étienne qui nous le dit là, qui nous le signale depuis la Tour Euronext, pire séance du CAC depuis juillet. Malgré tout, il y a toujours de l'espoir pour l'avenir. Et vous êtes un spécialiste des mid-cap de cet univers-là, Renaud. Une idée de pépite pour nos auditeurs et téléspectateurs.
Oui, il y avait une bonne tendance sur les valeurs moyennes qui repartaient. Donc on se méfiera du cycle. Là, on parle d'Imerys, qui est une société minière, spécialiste des minéraux.
Pour qu'on creuse encore un peu, là.
Ça creuse encore un peu, mais cela dit, ils avaient quand même fini de creuser. Nous, ce qu'on jouait, c'était un point d'inflexion sur les volumes. Après de longues années de décroissance, il y a une inflexion qui est enfin positive, et il y a de l'effet de levier. C'est quand même des métiers à coût fixe. Face à ça, il y a plein également des litiges qui doivent être gérés, et c'est surtout la société a enfin redéfini un peu son périmètre stratégique et son positionnement. Donc ça, c'est des bons éléments. Une valorisation qui est extrêmement basse, par rapport, elle décote très fortement par rapport à ses historiques, plus une petite option, on va dire, sur l'évolution du capital. Premier actionnaire GBL pourrait être amené à reconsidérer, à évoluer son périmètre suite à la résolution des litiges. Donc, certes, si on fait attention au positionnement cyclique, c'est quand même intéressant d'aujourd'hui qu'elle ne perd que 1%, alors qu'on a des cycliques qui sont emballés beaucoup plus fortement. Donc, ça dénote quand même une résistance et un intérêt sur la société.
Pourquoi pas Imerys. Donc, merci beaucoup à tous les de nous avoir accompagnés. Renaud Ramed, promet par AM, Eric Blaine, Swiss Life Banque Privée. Le CAC en clôture donc termine sur sa plus forte baisse depuis le mois de juillet, moins 2%. Il termine donc sur son niveau le plus bas depuis février, 7708 points. Notre CAC 40 dans de gros volumes en fin de séance, et on a enfoncé des niveaux techniques importants, ce qui n'est pour la suite pas encourageant. C'est ce que nous disait Romain Daubry. On devrait avoir sans doute d'autres replis, peut-être à venir très très rapidement. Dans un instant, Guillaume Paul et ses experts, Edwige Chevrillon, bien sûr Audrey Tcherkov, c'est Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.